originale.
Mais oui, évidemment.
Mais c'est la bande originale.
C'est
enfin
la bande originale. Je me disais aussi, ah oui, qu'est-ce voilà. que c'est que ce bruit qu'il y a là? Leïla Kadroumoudali.
Bonjour.
Morgane Gadignan.
Salut.
Monsieur Paul Mirabel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah. Bonjour.
Et
Daniel.
Nos invités, oh. Anaïs de Moustier et Valéria Brunitineski.
Bon, oui. Classe.
On s'organise. Nous allons parler des amours.
Okay.
Il faut qu'on s'organise.
C'est la CAF.
J'ai l'impression que c'est papa, on part en vacances. On s'organise, les enfants, on s'organise.
Je monte devant. Je charge le coffre.
Les amours d'Anaïs. C'est le film dont nous allons parler tout à l'heure avec Valéria et Anaïs de Moustier. Donc, évidemment, petit blind test facile.
Daniel.
Morgan.
Oui.
Ah,
chaud.
Ouais.
Mais laquelle?
L'artige de l'amour.
L'artige de l'amour. J'ai dû rêver.
Ouais, mais tu es allé trop vite surtout.
Bah, j'ai dû.
Ouais. Coucou, je peux. Oh, Tanguy, coucou. Ça va?
Je l'ai entendu Bachoum, il dit j'ai de quoi faire sur le live.
D'un coup.
Qui chante?
Tanguy.
Tanguy.
Niagara.
C'est l'amour à la plage. Aouh, tcha-tcha-tcha.
Qu'est-ce que j'aime, Niagara?
Paul nous regarde comme si on était des extraterrestres.
Tu connais pas?
Oui.
Attends. Paul Mirabel.
Oui.
Tu ne connais pas cette chanson?
Si, mais dans les années 80, je dansais que sur ça, moi.
t'étais pas né. Et ça?
Tanguy.
Oui.
Balavoine.
Ouais,
Balavoine.
Ah bah c'est pénible, écoutez. Il vient que pour gagner.
Bah, les années 80, je veux dire.
C'est quand il sait qu'il ne peut pas gagner qu'il ne vient pas. C'est l'inverse.
Le blind test des darons.
Ah, où est le sauveur?
Ah, attends, écoute la batterie.
Ok.
Moi j'aime ça. Alors, qui chante
Daniel.
Ça?
Leïla.
Non, Daniel.
Ah, Vite. Berger. Non, Véronique Sanson.
Non, c'est. Bah si, c'est Berger.
Bah oui,
ah, oui.
Ça aurait pu être. J'ai cru que c'était Sanson.
Je t'envoie mon écran.
C'est une réponse.
Ouais.
Je t'envoie mes sourires.
Bon, c'est ton premier point, Daniel?
Bah non.
Si.
Il est nul. Les vertiges de l'amour.
Ah, c'est vrai, il a ouvert le jeu.
Je t'envoie mes voyages.
C'est 2 points pour Daniel.
Attends.
2 points pour Tanguy.
Et toi, rien?
Bah non.
Ah ouais, c'est ça.
Elle peut pas tout faire, elle compte à ta place.
Morgane. Souchon. Ouais.
Bravo.
Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir.
Vous avez compris le thème ou pas?
La machine.
La machine.
Bouillir, Alain.
Non.
La machine.
Oh.
Continuons donc autour des amours. Les amours d'Anaïs, dans quelques instants, on en parlera. Mais qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Ah. Dalida.
Il y a toujours un Dalida.
Ça, c'est une des plus belles chansons du monde.
Ouais.
Oui. Alors, silence.
C'est laquelle?
Une histoire d'un amour.
Attends, est-ce qu'on a eu une tentative d'imitation ou pas là?
Ça peut coller une carrière, Morgane. Il y a Paul qui vient de faire un AVC.
Ouais. Tu dansais aussi là-dessus?
Oui.
Il vient d'écrire sur TikTok qu'il quittait l'émission. Qu'il est contre.
C'est une merveille.
C'était une grande dame.
C'est l'histoire d'un amour. Alors,
est-ce que c'est l'histoire d'un super banco?
C'est l'histoire d'un super banco maintenant. Pour l'instant, un point pour Leïla, un point pour Morgane, 2 pour Daniel, 2 pour Tanguy. Oui. Attention, il y a forcément amour dans le titre, évidemment, clin d'œil aux amours d'Anaïs, mais il peut y avoir 2 réponses possibles.
Leïla, bon entendeur.
Bouloudji.
Ah, j'adore.
C'est 2 générations.
Ah mince. Vu l'intro,
je pense que c'est Mouloudji. Bah non.
Oui.
L'amour.
Ouais, elle part plus vite, celle de Bon Entendeur.
C'est Leïla Kadroumoudali avec l'amour.
L'amour.
Qui a gagné.
Mouloudji, c'est Leïla.
Oui.
Non, c'est Daniel.
C'est Daniel.
C'est la veste.
C'est un réflexe, c'est Pavlov.
Bravo, Daniel.
Victoire de Daniel Morin et merci d'accueillir Anaïs de Moustier et Valéria Brunitineski.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue, mesdemoiselles. Ravi de vous accueillir pour ce film qui est un film d'amour déjà au singulier et d'amour singulière puisque il y a cette jeune demoiselle qui que vous interprétez et qui est pas au top dans sa vie, c'est-à-dire elle n'arrive pas à garder un garçon longtemps en couple, déjà pour payer le loyer, mais surtout c'est...
Non, à qui tu parles là?
Vas-y,
au personnage,
à moi.
Au personnage, oui.
À Anaïs. Donc.
Non, moi je la trouve pas si perdue en fait, je la trouve un peu agitée, c'est vrai, c'est un
Speed.
Personnage qui va vite,
super.
Qui est dans un espèce d'élan ouais. permanent, qui court tout le temps, ouais. qui... Et voilà, je la vois plutôt courir après un désir et après l'urgence de profiter des belles choses de la vie. Et de...
Mais elle pose la question, est-ce que vous pensez que je ne sais pas aimer ?
Oui, parce qu'elle sent bien en fait qu'elle n'est pas dans la norme. Elle voit bien qu'elle a du mal à vivre en couple. C'est une jeune femme de notre époque. Et en fait, aujourd'hui, quand on a 30 ans, on est quand même assez libre de se poser des questions. Voilà, elle n'est pas contrainte de vivre avec un garçon. Donc elle se dit finalement, moi, j'arrive pas à dormir avec les gens. J'ai du mal à vivre avec... Et elle interroge une femme qui, pour le coup, est dans un mode de vie beaucoup plus classique, beaucoup plus installé, bourgeois. Et elle lui dit, mais vous, en fait, vous avez un très grand appartement. Donc c'est sûrement pour ça que vous arrivez à vivre avec lui. Ouais. Parce que ça fait des siècles que vous êtes avec votre mari.
Et elle répond même pas à la question d'ailleurs, est-ce que vous êtes amoureuse de votre mari ? La dame en question ne répond pas.
Oui, la dame ne répond pas. Elle a un désir d'absolu, c'est un personnage qui veut que les choses soient grandes, soient belles, soient fortes, et donc elle n'accepte pas les compromis, les trucs, elle est...
C'est fatigant ça.
Elle est fatigante.
Ouais. Et puis,
j'aime beaucoup.
À jouer, ça court, mais alors ça court, les ouais. escaliers que vous grimpez dans tous les sens. J'imaginais qu'au bout de la... du quatrième étage en train de courir, la réalisatrice se coupe. On l'a refait, c'est-à-dire que je me...
Ah oui, elle...
Vous avez doublé ou pas?
Non, j'ai pas de doublé.
Non, pas de cascade.
Non, mais c'est vrai que je pense que j'ai dû jouer beaucoup de personnages un peu
Speed.
Statiques parce que on parle beaucoup de ça du côté elle court, mais c'est vrai que c'était physique, mais ça c'était un grand plaisir d'avoir à jouer un personnage qui parce qu'en fait c'est un personnage qui réfléchit beaucoup, qui théorise beaucoup sur la vie, sur les sentiments. Donc elle est beaucoup dans la tête, mais malgré tout elle a un corps quoi. Et effectivement, je trouve ça génial qu'il y ait les deux. C'est un souffle.
Votre personnage Valeria Bruni-Tedeschi, lui est plus posé et pour cause, c'est un auteur à succès qui est marié, mais qui là aussi vit l'amour d'une manière beaucoup plus calme, voire distante.
Pas trop quand même.
Bah, elle n'est pas avec son mari déjà. Elle est à la campagne en train de travailler pendant que lui est à Paris. Donc
distante et calme, d'accord. Oui. Avec son mari, d'accord. Oui, bah, ils sont mariés, ils sont ensemble, ils sont... Ça va. Ils peuvent aussi ne pas être collés comme deux.
Oh, la déprime.
Ça va, quoi.
C'est bon. Si, elle a raison.
Non, justement, ils sont ensemble et indépendants. Ils ont voilà, leur vie chacun artistique, leur vie dans leur tête. Ils ont besoin de solitude, voilà. Mais ils sont bien, ils sont quand même, je pense que c'est encore vivant leur amour.
En tout cas, ils ne s'interrogent pas dans cette espèce de liberté, peut-être c'est une manière un peu hippie de vivre ou babacool, c'est-à-dire chacun vit dans son coin sans poser de questions à l'autre. Lui dit à un moment donné, moi je veux même pas savoir ce que fait ma femme de l'autre côté, et on le voit dans la bande-annonce, donc je ne déflore rien, lui peut vous tromper.
Ouais, enfin bon, moi, il me le dit pas comme ça, hein. C'est pas non plus cynique.
C'est pas un accord
cynique, ouais. Mais disons que il y a une espèce de liberté d'esprit. Et oui, il y a une sagesse aussi quelque ouais. part chez eux, une
forme de réalisme,
voilà, une tranquillité. Parce qu'ils achètent une tranquillité sans poser de questions finalement.
Non, c'est pas une hypocrisie. C'est une chose, c'est quelque chose à voir avec une sagesse en se disant. Je pense qu'ils se disent. Voilà, que la vie, on s'aime, mais on peut aussi regarder ailleurs. Enfin voilà, il y a une chose comme ça de sagesse et de plus de liberté que d'hypocrisie. Moi, je le voyais. Moi, je sentais pas que j'étais un personnage hypocrite.
J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que c'est une forme
de... Non, mais pas une bourgeoisie hypocrite. C'est pas ça. Ils sont pas dans une bourgeoisie installée hypocrite où on s'achète une tranquillité. Je sens pas ça. Je sentais pas ça. En tout cas, je l'ai pas travaillé comme ça, le personnage.
Bah, justement, on va en parler. Il y a quand même une intrigue, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, Anaïs de Moustier, votre personnage, tombe amoureuse d'un homme qui a l'âge de son père. D'ailleurs, la phrase est clairement dite par votre personnage. En l'occurrence, votre papa est joué par Bruno Todeschini.
Denis Podalydès.
Non, papa.
Votre papa.
Quel
joli
statut. Il y a un Oedipe là. Oedipe
on a une psy qui vient tout à l'heure.
J'étais partie sur l'homme.
Et l'homme dont vous tombez amoureuse, Denis Podalydès, le mari dans le film de Valeria Bruni Tedeschi, Denis de la Comédie Française. Donc vous avez cette aventure. Et comme je le déflore pas, vous rencontrez la femme, déjà vous la découvrez entre guillemets en flirtant avec le mari, vous voyez une photo et là déjà vous êtes interpellé par cette photo et ou troublé.
Le désir n'est là.
Et on va voir jusqu'où ira ce trouble, puisque vous allez vous immiscer dans la vie de cette femme, d'Emily, et on ne sait pas trop ce qu'elle cherche là-dedans. Est-ce que c'est misery avec une espèce de manipulation psychologique? Est-ce que c'est un jeu de séduction? Est-ce que c'est pour punir le mari de l'autre côté? Ça fait partie en tout cas d'un thriller psychologique et romantique qui va s'installer. On va en parler un tout petit peu plus avant, mais d'abord, celle qui ne vous aime pas, c'est Morgane Cadignan. Il y a toujours un petit temps où ça redescend. Valéria, Anaïs, Morgane Cadignan ne vous aime pas.
Et non, Valéria Bruni Tedeschi, Anaïs Desmoussiers, je vous aime pas. Et oui, la sororité a ses petites limites et ça s'appelle ma jalousie. Moi, je suis du parti de la sororité sélective, du parti SS donc. tout simplement, je l'ai entendu en le disant. Sororité sélective, c'est être prête à écrire des pavés sur Instagram pour défendre qui tu veux de un petit peu moins belle et talentueuse que moi. Une journaliste bossue et borgne, mais meuf, je vais gueuler sur les marches du Sénat pendant 3 lunes. mais dès que c'est pour me positionner, pour défendre une fille canon, faut pas déconner. Elle peut se défendre elle-même. Faut bien que ça serve à l'autodéfense, des jambes de 4,5 mètres. Puis Anaïs, vous n'aurez qu'à étouffer vos ennemis avec votre chevelure de sirène, là. Ça va. Donc, mesdames, j'ai lu votre biographie. Et du coup, c'est non. Pardon. Anaïs Desmoussiers, elle a eu le César l'année dernière pour Alice et le maire. Vous imaginez le talent qu'il faut pour décrocher un César dans un film où le titre t'évoque évidemment instantanément un porno? Est-ce que je vais encore dire des trucs gentils? C'est hors de question. Après, elle va s'habituer, Anaïs. Et je vais vous dire, si on est trop gentil avec les gens talentueux, bah après, comment ça finit? Ils s'inscrivent aux meilleurs pâtissiers célébrités. Donc il faut des garde-fous. Et vous allez tellement, Anaïs, me remercier quand vous ne vous verrez pas à une heure de grande écoute en train de pleurer devant une ganache trop mousseuse. Valérie, j'en parle même pas, c'est pas une biographie, c'est quelque chose
Valéria.
Qui... Valéria, pardon, j'en parle même pas, c'est une biographie, c'est pas une biographie, c'est quelque chose qui me fait dire à chaque ligne, putain, j'aurais jamais dû quitter mon taf. Et à la fois, j'attends des preuves, parce que vous avez décroché plusieurs fois le prix Donatello. Apparemment, c'est l'équivalent des Césars en Italie. Moi, est-ce qu'on a une preuve de ça? Hein? Parce que moi, j'ai tenté de jouer dans des films en disant que j'ai gagné le prix Rome au Coco, qui est l'équivalent des Oscars en Martinique, et c'est absolument jamais passé. Donc la double nationalité, ça peut être l'excuse de beaucoup de choses. Vous pouvez être une grande actrice dans 2 pays différents, et c'est cool, c'est votre cas. Ou alors, on peut être complètement haché sur plusieurs territoires simultanément, et ça, c'est fort. Et c'est pas Manuel Valls qui dira le contraire. En plus, là, le mélange, il est sympa, quoi. Italo-française, en termes d'élégance, tu peux quand même difficilement faire mieux. Je suis sûre que si t'es belge ou luxembourgeois, tu t'amuses pas à secouer tes 2 passeports dans la tête des gens. Que italo-française, il y a un côté macaron à la Scaramozza, mais tellement séduisant, c'est tellement stylé de dire buongiorno à un serveur dans le 12e et dire ah non pardon, ici c'est bonjour, puis de te rappeler que t'es à Paris, donc le plus souvent on dit rien. C'est vrai, tout le monde dit que le français c'est une langue compliquée à apprendre, mais c'est faux, t'as pas besoin d'apprendre des termes comme bonjour ou merci, ou encore des phrases à la syntaxe plus compliquée comme ce chauffeur de taxi était adorable, ou encore ça sent bon dans cette rue. En attendant de repartir en Italie ou ailleurs, le 15 septembre vous serez donc toutes les deux à l'affiche des Amours d'Anaïs, qui en termes de titre est un peu mieux qu'Alice et le maire, et qui en termes de film est un peu plus osé, mais je vous laisse découvrir un film qui, j'en suis sûre, vous vaudra plein de nominations, mais pour des prix qui existent.
Merci.
Et Morgane, on se retrouve sur scène au théâtre Le Métropole du jeudi au samedi à 20h. Prenez vos places. Et je crois. Merci.
Pas. Les Amours d'Anaïs, Anaïs Desmoussiers. On a l'impression que c'est un film qui a été fait sur mesure et pour cause. Vous vous connaissiez avec la réalisatrice, vous aviez déjà travaillé ensemble.
Oui.
Et on sent qu'il y a une connivence, voire une complicité entre vous.
Complètement. En fait, je l'avais rencontrée pour un court-métrage qui s'appelait Pauline a servi, qui était un court-métrage sur l'aliénation amoureuse avec à peu près donc les mêmes thèmes et un personnage assez proche du personnage d'Anaïs. Et c'est vrai que quand j'ai lu le court-métrage de Charline, je me suis vraiment... j'avais l'impression qu'elle avait écrit pour moi, quoi. J'ai senti qu'elle avait une... C'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, vraiment. Enfin, les dialogues sont très savoureux pour les acteurs. Et je me suis dit, cette langue est faite pour moi.
Il y a un petit côté nouvelle vague aussi, ne serait-ce que dans le titre, de mettre le personnage principal comme ça, l'ériger sur l'affiche. Et puis, c'est aussi tout d'un coup cette jeune femme qui s'inquiète de rien d'autre que du désir. C'est-à-dire que le reste ne compte pas. D'ailleurs, l'argent, elle n'en a pas, mais c'est pas un problème. Il y a un truc comme ça d'une légèreté un peu folle. C'était déjà inscrit dans le court-métrage, cette dimension un peu, quand je dis nouvelle vague, mais oui, cette école-là.
Oui, oui, complètement. Elle aime aussi beaucoup le cinéma de Romère. Oui. Et puis oui, je crois qu'elle a la volonté d'un cinéma qui met en scène un personnage très libre. Donc voilà, cette jeune femme, elle a aussi des excès. Moi, ce que j'aimais, c'était que dans le court-métrage, il y avait vraiment un aspect comédie. Et là, dans le long-métrage, elle voulait qu'il y ait cet aspect comédie, mais aussi aller plus loin et que le film se déploie dans quelque chose de plus romantique, ouais, et de plus romanesque. Et je trouve qu'elle réussit super bien à mélanger les genres, en fait. C'est-à-dire que c'est pas évident d'être à la fois premier degré dans l'amour, dans le sentiment, et en même temps d'avoir du recul sur ses personnages et de faire rire. Et c'est tellement bien écrit que, en effet, le personnage est parfois un peu scandaleux, elle est pleine de mauvaise foi.
Elle ment, elle est excessive.
Surtout, pardon, et tout ça, c'est très amusant à jouer.
Elle pense essentiellement à elle.
Il y a
une réplique d'une violence inouïe sur l'éventuelle mort de sa maman, où elle dit j'ai pas envie d'être triste, quoi. C'est-à-dire qu'elle, avant même de se poser la question sur la santé de sa mère, c'est dans quel état ça va la mettre, elle, avec j'ai pas envie. C'est d'une violence
inouïe. Oui, mais moi je vois ça aussi comme une forme de pudeur, en fait. Bon, après, c'est vrai que moi, quand je joue un personnage, j'essaie toujours de le comprendre et de le pardonner.
Non, elle est capable de mentir en disant ma mère est malade, et ça, c'est le pire des mensonges, parce que d'ailleurs, votre personnage vérifie tout de suite en appelant sa mère pour voir s'il lui rien arrivé.
Ouais, mais
pour ça, pas lui porter la poisse.
Ça, c'est dans elle va toujours un peu trop.
Ouais, dans la vie de tous les jours, c'est terrible de faire ça.
C'est
de
vrai.
Prétexter, on porte la poisse aux gens.
Ouais, c'est vrai. Elle utilise un truc qui est vrai. Ouais. Sa mère est vraiment malade, mais elle l'utilise pour s'arranger les bidons. C'est vrai. Elle est un peu limite.
Elle est un peu limite.
Moi, ce que j'aime, c'est son obstination et le fait que justement, elle ne lâche pas. Quoi. Elle ne lâche pas avec quelque chose qui, pour moi, est beau. C'est-à-dire. Vivre l'amour pleinement, être face à son désir, ne pas se mentir. Enfin, c'est quand même des beaux trucs, quoi, qui l'animent.
Lorsque Émilie, donc auteur à succès que vous interprétez, Valéria, la rencontre, est-ce qu'elle voit finalement celle qu'elle a été ou celle qu'elle aurait aimé être? Est-ce qu'il y a une identification ou une admiration qui se joue?
Oui, je pense que dans la. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux et, ou en tout cas qu'on. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, il y a un effet de miroir, il y a un effet de qui on aurait aimé être, ou qui on a été un peu, qui on n'a pas été complètement.
Et en même temps, c'est une auteure. Peut-être qu'elle voit aussi un personnage qui pourrait l'inspirer, sur lequel elle aimerait écrire. Parce qu'on ne sait pas trop d'ailleurs quel est l'univers qui nourrit son
art. En tout cas, il y a quelque chose qui la réveille. Et je pense que dans la vie, la peur nous endort. Et puis, parfois, il y a des rencontres ou des choses qui nous réveillent. Et pour quelqu'un qui écrit ou qui joue ou qui... être réveillé, c'est vraiment, vraiment essentiel.
Pour son art.
Pour son art, pour sa vie. Je pense qu'un quelqu'un qui est artiste, qui, en tout cas... Mais même pour quelqu'un qui n'est pas artiste, être réveillé quelqu'un, c'est un grand cadeau qu'on lui fait. C'est merveilleux d'être émerveillé, réveillé. C'est très rare. Parfois on passe des très surpris. Parfois on passe des, mais vraiment comme une chose d'éveil de l'âme. Et parfois on passe des grandes périodes de sa vie, des années où on a l'impression de vivre, mais on est endormi. Et après, hop, on se réveille. Ça, c'est vraiment un grand cadeau.
Et elle est à la fois en éveil et complètement hypnotisée, en fait, par cette jeune femme qui débarque dans sa vie. D'ailleurs, elle la jauge, on voit, hein, en termes de cinéma, comment elle l'observe, comment elle se demande pourquoi elle est là, pourquoi elle veut cette proximité. Et puis, il y a un petit extrait de film, il y a une séance de film où... où l'autrice, je crois que c'était pas une femme sous influence, plutôt, qu'on voit.
Je pense que c'est Opening Night. Ouais. Et c'est vrai que Jenna Rolland, elle a... Moi, ça me fait vraiment cet effet-là. Quand, à chaque fois que je la vois dans n'importe quel film, ça me réveille.
Oui.
Ouais.
Vous parlez beaucoup du réveil.
Oui, enfin, là,
J'ai mal dormi. Elle a fait une grasse matinée.
J'ai mal dormi.
Pardon, c'est pas notre faute. Le fait d'avoir un personnage qui porte son prénom, c'est troublant, Anaïs de Moustier, de ne pas endosser un autre costume et de ne pas être quelqu'un d'autre.
J'aimais bien comme elle a décidé, Charline, de nous laisser quand même assez proche de ce qu'on est dans la vie, c'est-à-dire que le film se tournait en Bretagne, il se trouve qu'il faisait très chaud, et c'était chouette, et on était pas très maquillés, ouais, c'est ça. On était, je sais pas, il y avait un truc de nature, de simplicité, où on était quand même assez proche de nous, et donc le prénom ça allait avec. Et moi, en fait, d'habitude j'y pense jamais au prénom de mes personnages, mais là c'était plutôt assez génial, parce qu'il y a une scène à la fin dont il faut pas trop parler, mais dans laquelle le personnage de Valéria s'adresse au mien, et c'était un texte que je trouvais magnifique. Enfin, tout ce qu'elle me dit dans cette scène, je trouve que c'est très beau. C'est vraiment une scène de transmission de femme à femme qui est magnifique. Et le fait que Valéria, qui est une actrice que j'admire énormément, me dise ce texte en me disant « Mais Anaïs, je sais que ça me parvenait encore plus. » Ouais. Ouais. J'étais vraiment bouleversée par ce moment, et je pense encore plus parce qu'elle m'appelait par mon prénom.
Et la place des hommes là-dedans, ils sont... comment? Oui.
Ils pataugent.
Alors,
voilà. Ils pataugent un peu.
Ils sont décevants. Ils sont décevants. Enfin, non, Denis et Podalydas, son personnage est décevant.
C'est vrai. Moi, j'ai de la tendresse pour les personnages.
Bah oui, ils sont décevants quand même.
Non, on parle du personnage.
Les deux, ils ont du charme. Les trois personnages masculins ont beaucoup de charme, je trouve.
Moi, j'aime beaucoup votre frangin. Oui, il est extrêmement drôle avec son lémurien.
Masculin.
Mais ils sont pas très sûrs d'eux, ils sont pas très solides.
Ils sont souvent j'ai l'impression que dans le film, ils sont souvent chargés de faire un espèce de contrepoint comique à ce qui se passe. Donc en effet, ils sont parfois on en rigole un peu, mais à la fois,
charme,
je sais pas,
ils ont
qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
Je sais pas.
Moi, je pense que la fragilité est très charmante, et je trouve que c'est pas du tout méprisant le regard que Charline a sur les hommes. C'est juste, un peu moqueur, ouais. mais attendri.
Ouais.
Oui, enfin, ils...
Ils n'ont pas le même degré de complexité.
Il y a une maladie grave qui touche son épouse. On ne peut pas dire que le personnage de Bruno Todeschini réagit d'une manière extrêmement...
Il est là. Magnifique.
Moi, ouais.
Je le trouve merveilleux.
Je ne suis pas très concerné, moi, dans le...
Ah bon ?
Bah oui.
Non, mais c'est un tout petit truc. Enfin, je veux dire, c'est pas l'intrigue du film, quoi.
Non. Mais c'est juste ce moment-là.
Ça n'est pas traité, quoi.
Si on y rajoute la...
Mais il fait ça...
Le jeu du mari qui trompe sa femme et qui on a le sentiment qu'il le fait d'ailleurs d'une manière systématique. D'ailleurs, Anaïs le dit dans le film, tu trompes souvent ta femme. Ah non, jamais. Bah ouais, il est au lit avec une femme, il dit non, je la trompe jamais. Donc on voit bien de quel bois il se chauffe, ce garçon qui vit évidemment extrêmement mal que vous rentriez doublement dans sa vie.
Ouais, il dit c'est la première fois et tout. Non, c'est vrai que j'avoue que le personnage de Denis est quand même un peu scandaleux, quoi. Enfin, on en rigole, quoi.
Mais... Ah bon. Si, moi, j'étais troublé par le comportement des garçons, que j'ai pas trouvé très élégant. Ouais, je les trouve pas. Je les trouve pas chic.
Non, moi je les trouve charmants.
Ok, très bien.
Mais ouais. J'aime bien les maladresses, moi. J'aime bien les défauts.
Et le fait qu'il y ait le monde de la littérature très présent aussi, puisque les livres sont là, l'écriture, il y a même une intrigue sur un livre qui disparaît, qui réapparaît, on sait pas trop. C'est aussi un personnage, la littérature, dans le film.
Oui,
très. Oui, complètement.
Bah, Charline a fait des études littéraires, elle aime beaucoup ça, la réalisatrice, et donc c'est important pour elle. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est que la fascination de mon personnage pour le personnage de Valéria passe aussi à travers l'écriture. Elle dit tout ce qu'elle écrit, j'aurais aimé l'écrire. Et ça arrive souvent, ça, quand on est fasciné par une œuvre artistique, on projette des choses et on a l'impression de se sentir moins seul, ou en tout cas, on a envie de rencontrer la personne qui a réalisé une œuvre, parce qu'on se dit, les sensibilités sont les mêmes. Donc ça participe de l'attachement, de la fascination entre les deux femmes.
Alors, dans le casting de ce film de Charline Bourgeois-Taquet, il y a évidemment Valéria et Anaïs, Denis Podalydas, on en a parlé, de la Comédie Française, Jean-Charles Cliché, Xavier Guelfi, Christophe Montenay, de la Comédie Française, Anne Canovas et Bruno Todeschini, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a pas mal de scènes d'humour avec votre frangin, de vannes, en tout cas, entre les deux, avec un lémurien aussi qui est pas au cast, mais qui est drôle dans le film. Et puis il y a aussi votre vrai frère qui produit le film, ce qui devient vraiment une affaire de famille.
En fait, il avait produit le court-métrage de Charline et après là, ils coproduisent le long-métrage avec David Thion chez Péléas. Ouais.
Et ça rajoute une responsabilité supplémentaire, non. Un poids supplémentaire
oh,
ou...
Non. Rien enfin, moi, je suis actrice du film, oui, que ce soit mon frère. Non, non.
Ça change. Non, c'est la première fois que ça
non, se. Non, mais c'est produit. Vrai que c'est super parce que pour le court-métrage, il m'a dit j'ai lu ce court-métrage et je pense que tu vas adorer. Enfin, il avait senti qu'on allait s'entendre avec Charline dans le travail tout de suite.
Et vous aussi, vous avez fait des études de lettres ?
Non. Enfin, j'ai fait lettres modernes et cinéma à la fac, mais vraiment, je pense, 3 mois, quoi. Donc on peut pas dire ça.
D'accord. Non, c'est pour voir les ponts ouais. Encore avec.
Non, mais c'est vrai qu'on a
toujours
parlé de Roland Barthes avec Charline parce que le court-métrage s'inspirait beaucoup des fragments d'un discours amoureux, donc on a des passions communes. Marguerite Duras, moi, j'aime aussi beaucoup Marguerite Duras, mais enfin voilà, c'est
ce qui vous a séduit dans ce film, Valéria Brunetteschi, c'est la vision de l'amour, c'est la vision de la quête du désir et de la liberté.
Moi, déjà, ce qui m'a séduit, bonjour. C'est la réalisatrice, c'est-à-dire le boire un café avec quelqu'un, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Déjà, j'aimais bien être au café.
Vous le faites à chaque fois.
Voilà.
À chaque fois, vous rencontrez le réalisateur ou la réalisatrice.
Je bois un café.
D'accord.
Je bois un café, pas autre chose, un café. Je vois ce qui se passe. Et ça, si je m'ennuie, même si c'est un scénario magnifique, même si c'est un film, si je m'ennuie au café, je ne fais pas le film.
Bon,
je peux pas supporter de m'ennuyer.
Pendant le café.
Déjà. Et je vois si il y a un monde que dans lequel j'ai envie de, si la vision du monde de la personne qui va faire le film me donne envie, me paraît originale, ça me paraissait vraiment un monde, son court-métrage, son écriture. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait monde.
Faut que ça vous réveille.
Vous voulez être surprise ou au contraire vous dire c'est ce que je ressens aussi.
Non, je veux sentir la cohérence d'une vision du monde avec une écriture, avec une musique spéciale, quelque chose qui me semble à la fois familier et à la fois nouveau pour moi. C'est-à-dire si c'est que familier, alors je vais le faire moi le film. Si c'est au lieu familier mais un peu décalé par rapport. Alors là, il y avait quelque chose, un monde à elle. Je trouve que, par exemple, entre le court-métrage et le long-métrage, on sent que c'est le même auteur. C'est un auteur. Ouais. Et ça m'attire. Après, je lis le scénario, je vois le personnage.
Donc en fait, c'est le réalisateur qui passe un casting avec vous. C'est lui qui doit vous convaincre de...
Le réalisateur ou la réalisatrice, pas oui, qui passe un casting, mais qui... Oh, oui. C'est ça. Non, mais dans le sens qui c'est ouais, la personne qui va me convaincre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à lire les scénarios avant de rencontrer. D'habitude, les acteurs, ils lisent avant et après, ils rencontrent. Et moi, je fais à l'envers. Parce que si je lis et que j'aime et qu'ensuite je m'ennuie, ça ne sert à rien.
C'est décevant. Donc, vous rencontrez d'abord...
Le diable, c'est l'ennui, dit... C'est un livre de Peter Brook.
Et vous, Anaïs, c'est pas du tout la méthode pour d'habitude.
Café, thé.
La rencontre avant la lecture.
Non, souvent je crois que je lis puis ouais, après je rencontre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est décisif.
Il peut y avoir des moments où on lit, on est emballé, on rencontre et on s'ennuie.
Oui, oui, oui.
Ce qui n'était pas le cas parce que là c'est presque l'inverse.
Ouais,
quoi.
Non, mais pas dans ce cas-là. Non, là c'est pas du tout le cas. Dans d'autres cas de figure.
Non, mais en fait surtout c'est ce que dit Valéria, c'est qu'en fait c'est important de sentir qu'il y a une vision qui nous ouais, interpelle et ouais, que voilà, on va sentir qu'on va pouvoir nous être le vecteur de ça et voilà. Enfin, c'est juste un truc qui se fait ensemble. Donc évidemment, un film c'est tellement une aventure humaine que si on n'est pas en contact, enfin en bon contact avec la personne, d'ailleurs ça peut être aussi tendu mais intéressant. Enfin, il y a des mille manières de bien faire ensemble. Hein,
après, c'est pas seulement bon contact, parce qu'on peut avoir un bon contact et pas reconnaître une vision du monde ouais, puissante. Voilà, c'est ouais, un peu la puissance aussi.
Une histoire d'amour avec une jeune fille qui tombe amoureuse d'un monsieur qui a l'âge de son père, avec ensuite, elle s'intéresse, elle est attirée psychologiquement, mentalement, par l'épouse de l'homme marié en question. Mais alors là, qu'est-ce qui la motive? Est-ce que c'est de jeter le trouble? Est-ce que c'est de semer le trouble? Veut-elle se venger? Veut-elle semer la zizanie au sein du couple? C'est toute cette intrigue aussi romantique qui s'installe, ce rapport de séduction aussi qui s'installe. Il y a un jeu un peu de chat et de souris, on ne sait pas d'ailleurs qui manipule qui ou qui dirige qui. Il y a quelques surprises qui apparaissent.
Faut dire que Valéria est magnétique aussi, donc on peut entendre tout d'un coup que ce personnage d'Anaïs soit hyper troublé
complètement. C'est pas seulement une fascination mentale, c'est aussi
le trouble vient des deux.
Ouais.
Le trouble vient des deux, ouais. C'est-à-dire le trouble vient de ce magnétisme d'un côté, de cette énergie de l'autre, feu follet comme ça, où on sait pas ouais. trop d'ailleurs qui va
consumer l'autre.
Ouais. Consumer l'autre. Tiens, je vais rester là-dessus. Tu as raison. Ça sort le 15.
La métaphore des barbecues.
Tant ça, c'est-à-dire ce mercredi, Les Amours d'Anaïs au cinéma. Voici Monsieur Paul Mirabel.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui.
Bah écoutez, ouais. Moi aussi ça va. Ça va. J'ai toujours pas rencontré la femme de ma vie, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet de cette émission. Je voulais faire une chronique sur l'actualité aujourd'hui. Donc j'ai suivi un peu la presse de ces derniers jours qui traite surtout des 20 ans du 11 septembre et de l'ouverture du procès des attentats du Bataclan. Du coup, après mûre réflexion, j'ai plutôt décidé de vous parler aujourd'hui des escargots, puisque c'est bien les escargots. Ça fait beaucoup moins d'attentats déjà. Après, je connais pas non plus tous les escargots, hein, mais j'imagine que c'est quand même au quotidien plus lent et plus léger à vivre. Et surtout, si un jour il y a un escargot qui décide de te foncer dessus, bah t'as quand même le temps de le voir venir. J'ai quand même regardé un petit documentaire sur le 11 septembre pour bien me détendre avant de dormir et oublier le stress de cette rentrée. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'en fait, si tu voulais aller boire un verre à New York en 2001, c'était peut-être mieux d'y aller le 10. Ouais, parce que le 11 est... Et comme des chances que ton café arrive avec un peu de retard, ça m'a aidé à comprendre des choses, ce documentaire, parce que moi, en 2001, j'avais 6 ans, et comme mon premier souvenir totalement net dans la vie remonte à mardi dernier, il fallait que je recontextualise un peu l'événement. Déjà, ça m'a fait réaliser en le regardant que, en fait, dans la vie, dans l'absolu, ça va. Puisque tu sais, dans ma génération, on a tendance à se plaindre assez facilement. Mais comme jusqu'à présent, il n'y a aucun avion qui a atterri sur mon lieu de travail, je pense que j'ai pas forcément de raison d'aller mal. Vous remarquerez d'ailleurs que tel un escargot, je suis un peu en retard sur le sujet, puisque c'est une chronique sur le 11 septembre alors qu'on est le 14. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais vous parler de ce que j'ai fait cette année pour la Saint-Valentin. Rien de spécial en plus d'ailleurs, mais ça en revient toujours au fait que j'ai pas rencontré la femme de ma vie et on a dit que c'était pas le sujet de cette émission.
Non.
Ouais, je me permets d'évoquer le 11 septembre d'ailleurs, mais je tiens à préciser que tout ce qui se dit ici relève du domaine du divertissement. Je précise, parce que parfois je fais des chroniques ici, et après il y a des inconnus sur Internet qui insultent tout mon arbre généalogique, alors qu'honnêtement mon oncle est quelqu'un de très bien, et c'est pas vraiment le sujet de cette émission non plus d'ailleurs. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait une chronique sur Marseille, devant le rappeur Soprano, c'était Deng, 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 et dans les commentaires, il y a des Marseillais qui ont mis des doutes sur la profession de ma sœur, et qui ont même sous-entendu... qu'elle travaillait plutôt tard la nuit contre des espèces, et c'est d'autant plus compliqué à vivre puisque j'ai pas de sœur. Voilà. Mais c'est pas le sujet de cette émission non plus. Ouais, pour en revenir au documentaire, donc, c'est quand même un petit fil conducteur dans cette chronique, j'étais un peu ému en le regardant, d'autant plus en ayant pris l'avion là il y a quelques temps, et je sais ce que vous vous dites, c'est fou que derrière cette allure de gros voyou se cache un homme si sensible. Non, personne ne se dit ça, ok. Non, j'en suis arrivé à une conclusion en prenant l'avion, qui est que dans l'avion, si potentiellement quelque chose se passe mal, bah, tu peux pas t'en aller. Voilà, alors j'ai conscience que c'est pas une conclusion de ouf non plus, hein, mais je tenais à vous l'en présenter. D'ailleurs, en début du vol, dans l'avion, on t'explique qu'en cas de dépressurisation de la cabine, on t'explique ce qu'il faut faire. Et je pense que pour que ce soit vraiment efficace, il devrait d'abord nous expliquer le sens du mot dépressurisation. Puisque je me suis jamais retrouvé dans la vie à dire à quelqu'un, fais attention à droite, il y a une dépressurisation. Bon, un jour, il y a même un enfant qui m'a demandé ce que c'était, je lui ai dit, bah, c'est quand ça dépressurise. Donc voilà, vraiment, je suis très léger sur ce sujet. D'autant plus quand j'ai pris l'avion récemment, l'hôtesse m'a placé à côté de l'issue de secours, et elle m'a dit, est-ce que je peux compter sur vous en cas de besoin? Je lui ai dit, bah, évidemment que non, madame. Hein. S'il faut improviser un petit sketch devant tout le monde, je peux peut-être me débrouiller, mais s'il faut armer un toboggan, ne comptez vraiment pas sur moi. Voilà, donc je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille dresser des escargots à prendre l'avion, ce qui, je rappelle, est le vrai sujet de cette émission. Merci tout le monde de m'avoir écouté.
Et Paul, on se retrouve du mercredi au samedi au Théâtre des Mathurins. Tu seras aussi en tournée en 2022, partout dans la France.
Anaïs de Moustier, Valéria Bruni-Tedeschi, dans le film Les Amours d'Anaïs, qui sort ce mercredi. Vous avez pu chanter votre version de Valéria, parce que je suis sûr que votre voix irait bien avec cette chanson.
C'est vrai. Si je savais chanter, j'adorerais.
Vous plaisantez. Non.
C'est pas possible. On peut pas être italienne et pas savoir chanter. C'est
mais
impossible.
Si, mais vous avez chanté
c'est
sur.
C'est ma sœur qui sait chanter.
Non, mais vous avez chanté sur l'album de Carla.
Oui, j'ai
et de Raphaël.
Chanté.
Et vous
elle a rappé, elle a rappé en italien.
Ouais, mais et sur l'album de Raphaël.
Tu chantes sur l'album de Raphaël. Je parle.
Ouais, ça chante un peu.
Oui, ça chante un peu comme ça, mais je sais pas. Disons que c'est plutôt ma sœur qui chante.
Ok, on va dire ça. On va écouter les musiques, non pas celles qui sont dans le film. Dans quelques instants, nous allons recevoir Cécilia Como, qui est psychanalyste et spécialiste du couple, sexologue clinicienne. Voilà, on lui posera les questions sur la trilogie qui s'installe dans Les Amours d'Anaïs. Mais d'abord, en 87, Valeria, vous écoutiez... Chanson qui est revenue...
En 98
coup... Non, ça c'est pour la Coupe du Monde, c'est revenu un tube en 98 avec le remix, mais en 87, c'était le moment où ça sortait. Ça vous renvoie quoi comme image, vous, cette chanson de Gloria Gaynor?
Moi, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne tout le temps. C'est justement, ça c'est une chanson qui me réveille.
Qui était l'hymne des années SIDA aussi, hein, c'est le côté I Will Survive.
Voilà, c'est toute cette époque-là, mais c'est après, elle m'a accompagnée toute ma vie. C'est comme un endroit dans lequel je me glisse pour me préparer souvent pour le travail.
Il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous a accompagné toute votre vie,
ouais.
C'est Patrice Chéreau, avec qui vous avez fait vos débuts au cinéma, avec qui vous avez collaboré, vous avez appris même en tant qu'étudiante avec lui.
Oui, enfin c'est un peu mon enfance,
ouais.
De travail, dans ouais. le travail, c'est avec comme mon père, enfin une chose de père.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il a réveillé en vous, lui ?
Ben, l'obstination dans le travail, l'excitation, la passion, la précision, le labeur et en même temps...
Et pas d'amusement ?
Oui, en même temps l'amusement, mais avec beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est d'arriver à quelque chose avec le travail ? Ça, je trouve ça passionnant.
Et pourquoi
je le voyais beaucoup travailler.
Et pourquoi vous aimez autant tourner ? Qu'est-ce que ça vous apporte, un tournage ? Ou d'être comédienne, en fait ?
L'argent ?
Non, il y a une quête qui est plus grande que ça. Il y a une quête qui dépasse tout ça.
Oui, c'est comme si c'était une autre planète dans laquelle je monte avec un petit escalier. Et dans cette planète-là, que ça soit d'écrire un film, ou de le diriger, ou de jouer dans un film, ou de jouer au théâtre, c'est une planète... où il y a d'autres lois, d'autres... Je l'aime beaucoup, je m'y sens très bien. Après, évidemment, je redescends, et il faut redescendre vite dans cette planète aussi, parce que sinon, après, on perd le contact. Mais j'aime beaucoup les lois de cette planète, là-bas. Elles sont très différentes. Il y a une liberté, il y a une incorrection, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Il y a, disons, par exemple, il y a en psychanalyse, on dit le ça, le surmoi et le moi. Et ben, dans la planète du travail, le ça, il s'épanouit. Alors que dans cette planète ici, le ça, il agonise. Et j'aime beaucoup ça.
Est-ce que l'une comme l'autre, vous êtes inquiète quand il y a des périodes sans projet, sans pièces de théâtre, sans tournage ? Est-ce que ce sont des périodes normales d'attente qui sont liées à votre métier ? Ou il y a des moments où on se dit, ça fait quand même un certain temps que j'ai pas tourné, et on peut s'en inquiéter de cette intermittence qui fait partie de...
Moi, j'aime assez ce système de vide et de plein, quoi. Parce que c'est vrai que, comme dit Valeria, c'est des moments un peu de fuite, les tournages, on décroche un peu. Et donc, ça manque quand on est dans la vie normale et qu'on tourne pas. Moi, je sais que ça me manque assez vite. J'ai un seuil de tolérance assez court, quoi.
Donc, un besoin de jouer, de travailler.
Ouais. Mais c'est nécessaire aussi, quoi. C'est nécessaire. Parce qu'on doit tout le temps être en tournage. Je pense que si on est en tournage toute l'année, on devient un peu fou, quoi, franchement.
Non, moi aussi, j'aime bien ne pas tourner. Je trouve que c'est important de pas tourner. Mais j'ai quand même trouvé une... Je n'aimais pas. Cette attente. Je n'aimais pas cette condition de bébé qu'on doit prendre dans les bras, sinon il meurt. Alors, c'est pour ça que, vers 35 ans, j'ai réussi à trouver la façon de faire mes propres projets. Et même quand je n'en ai pas, je cherche. Et donc, du coup, je travaille tout le temps.
Vous nourrissez le travail vous-même.
Sur la petite planète.
Sans attendre qu'on vous l'apporte. Ouais. Anaïs de Moustier, au moment de votre naissance, on va dire qu'à la maison, on pouvait écouter... C'est vraiment ça. Hein. Année de naissance, 87.
Ouais, 87, ça ne nous rajeunit pas.
C'est pour ça que je le répète.
87.
Voilà. Elle aime les
vieux. On a évoqué à plusieurs reprises votre enfance dans le nord de la France. Est-ce que vous seriez devenue comédienne si votre frère n'avait pas eu envie d'être réalisateur ? Est-ce que ça, dans une enfance, ça conditionne, ça tourne le regard vers justement le cinéma, les films et cette planète ?
Rêver. Bah oui, j'étais actrice avant qu'il y ait envie d'être réalisateur.
Oui, non. Ah oui, avant ?
Ouais.
Déjà avant.
Donc c'est l'inverse alors.
C'est lui, l'inverse, c'est lui. Lui dit, comme elle a fait des films, je me suis dit, ah tiens, c'est pas si loin le cinéma, peut-être qu'on peut en
d'accord.
fait. Donc ça s'est fait dans le sens inverse.
Donc c'est la petite sœur qui a entraîné le grand frère.
Ouais,
dans ce sens-là. Ouais,
carrément.
Vous vous souvenez du jour où vous avez passé un casting, je crois, avec Gérard Depardieu ?
Ouais.
Vous avez donné la réplique à Gérard Depardieu. C'était pour des essais. Et je crois que c'est Tony Marshall qui dirigeait.
Ouais. Ouais, pour un film qui s'est jamais fait. Ouais, ça c'était génial. Mais c'était quand même beaucoup plus tard, ça. Hein.
Ouais.
Là, j'étais déjà quand même plus vieille.
Ouais.
Et oui, c'était fascinant parce que c'était un jour à Paris, il neigeait. Ce qui est quand même assez rare. Donc tout était étrange, quoi. Et lui, il n'arrivait pas et tout. On se dit, Gérard, il va sûrement venir, mais c'est pas sûr. Et il est arrivé comme ça, avec ce Paris enneigé, il a ouvert la porte.
Wow.
Et c'était exceptionnel, quoi. Et évidemment, il savait pas du tout le texte qu'on avait à dire. Mais en fait, tout était fascinant dans sa manière de le lire, de le dire. Enfin, c'était extraordinaire. Et je me souviens qu'il avait dit la phrase qu'il fallait pas parce qu'il avait dit « Ah, elle est possédée, la petite !» Et justement, la réalisatrice avait peur que je sois trop étrange pour le rôle. Donc je me suis dit « Merde, il a dit que t'es possédée, c'est une catastrophe !»
Mais c'était un compliment dans cette
phrase. Ouais, je pense que c'était... c'était pour
elle est habitée, quoi.
Ouais, c'est
voilà.
Ça,
ouais. Mais bon, de toute façon, le film s'est jamais fait, donc il n'y a même pas de
à cause de vous,
de...
parce que vous étiez
possédé. Non. Elle a changé de projet, là. C'était extraordinaire. Moi, c'est mon rêve de travailler avec lui, mais ouais.
Ah, ça peut se représenter.
Ouais.
Il tourne
rarement avec des gens possédés.
Il tourne dans le prochain Becker là dans les jours qui viennent. En 2002, Valeria Bruni-Tedeschi, vous écoutiez du Chopin. La musique est très présente dans votre vie, y compris quand vous travaillez, vous mettez de la musique, quand vous écrivez ?
Pas du tout.
Ah, c'est le silence ?
Ouais, pas silence, j'aime bien écrire. Ça, c'est, pour moi, c'est le plus beau morceau de... Enfin bon, et ouais, j'aime bien écrire avec du bruit, mais du bruit d'or.
Et Chopin, qu'est-ce que ça vous envoie comme émotion, comme image
ou... Ce morceau-là, il...
C'est le prélude numéro 4.
Oui, je trouve que c'est comme un des plus beaux poèmes qu'on peut imaginer, il me bouleverse, oui. Là, maintenant, ça va aller. Et puis là, voilà, il y a toutes ces vagues dans ce morceau. Et après, il y a un peu d'espoir. Et après, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'espoir. Après, ça retombe. C'est entre l'espoir et le désespoir.
Vous êtes capable de fondre en larmes en écoutant un morceau ? D'être en...
Ouais, je peux fondre en larmes, non. Pleurer, oui. Fondre en larmes,
d'accord.
Peut-être pas. Mais ça, ce morceau-là, je le joue aussi. Je l'aime aussi parce que je le joue. Depuis des années, j'adore le travailler. C'est toujours très difficile, mais j'adore le travailler.
Vous préférez dire le travailler que de le jouer ? C'est-à-dire que pour vous, il y a un côté exercice et progression dans votre manière de le jouer ?
J'aime, parce qu'en fait, je le connais, mais je suis tout le temps en train d'essayer de le travailler.
De perfectionner son...
De comprendre
sa vague.
Comment, oui, comment arriver à faire la main gauche, comment arriver à faire la main droite, comment arriver à être simple et passionné en même temps. Si donc, c'est trop passionné, c'est pathos. Si c'est trop simple, c'est froid. Et donc, c'est cet équilibre-là que...
Donc, c'est pas une note qu'il faut jouer, c'est une émotion.
Non, c'est, oui, mais c'est des notes. C'est des
oui,
notes.
J'avais compris. Oui, que c'est des...
Non, mais c'est ça qui est beau.
Non,
c'est
mais
que
c'est
une
le
émotion.
Ressenti, voilà.
Oui, mais c'est très précis et technique en même temps. C'est ça que j'aime.
Et vous savez jouer autre chose ?
Pas trop, non. Je joue peu de choses. Je joue.
Lettre à Élise.
Là, j'ai fait un film avec Ursula Meyer où je devais jouer le rôle d'une pianiste. Donc, j'ai recommencé le piano pour le film. Donc, elle m'a demandé un Beethoven et un Schubert. Donc, après, j'arrête pendant des années. Après, je recommence. Donc, je joue pas beaucoup de morceaux.
On est en 2002, Valeria. C'est la sortie de Il est plus facile pour un chameau, votre premier film. Comment on se sent autorisé
en tant que réalisatrice
comment on se sent autorisé justement à prendre une caméra ou à dire voilà, je vais écrire un film, je vais le réaliser et je vais le donner à voir.
Alors là, je dois vraiment dire qu'il y a une personne qui m'a donné l'autorisation.
Noémie
Lvovsky.
Oui, et en fait, donner l'autorisation à quelqu'un de faire quelque chose, de s'épanouir quelque part, d'aller là où il n'ose pas, c'est un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un. Donc moi, j'ai une gratitude pour Noémie Lvovsky, avec qui j'ai joué, je joue aussi comme actrice, mais qui m'a vraiment, un jour, qui m'a dit... Moi, je lui ai dit, j'ai écrit ça, on a écrit ensemble, elle m'a aidé à écrire et tout ça. Puis j'ai dit, pourquoi tu ne le réalises pas? Il m'a dit, il n'y a que toi qui as la musique des scènes, qui as la musique intérieure des scènes. Et ça, c'est une... ce jour-là, elle m'a fait un cadeau immense.
Et ce cadeau, vous l'avez déjà fait, vous aussi, à quelqu'un d'autre?
Peut-être j'ai un petit peu, peut-être pas aussi fortement, mais un peu avec ma sœur. Elle m'a fait lire ses chansons au début, juste lire ou chantonner. Et j'ai toujours senti que c'était un grand auteur. Et donc, j'ai dit, je sais pas, c'est mon avis, mais moi, je pense que c'est magnifique. Je pense que c'est des mots qui donnent une espèce de fondement.
Et de confiance aussi.
Et de confiance, oui, de fondement dans la confiance. Oui.
Annelise Moustier, vous écoutiez dans ces années 2002-2003, Indochine. Patrice Chéreau d'ailleurs.
Absolument. Ouais, dans Le Temps du Loup de Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Béatrice Dalle et donc Patrice Chéreau. On entend forcément, comme l'a dit Valéria, tellement de louanges aussi sur Patrice Chéreau. Le voir, peut-être échanger avec lui, ça a été possible?
C'était étrange, c'était une sorte de colonie de vacances au fin fond de l'Autriche, ce tournage. Et en fait, Michael Haneke refusait que les acteurs rentrent à Paris. Donc tout le monde était parqué à Lutzmannsburg, un espèce de bled peu angoissant.
On dit comme ça, ça donne envie.
Et donc les acteurs étaient un peu tendus de ne pas pouvoir rentrer à Paris du tout. Et donc ça crée une ambiance, une atmosphère assez géniale, mais assez tendue. Il y a seulement Béatrice Dalle qui avait réussi à partir quand même. Et donc il y a un moment où c'est sa doublure, parce qu'elle s'était carrément barrée. Quoi. Et donc Patrice Chéreau, je me rappelle que c'était parmi les adultes qui étaient avec nous, parce qu'on était trois enfants dans le film, l'homme le plus intimidant pour moi, le plus distant avec les enfants. Je pense qu'il y a une grande pudeur, une grande... je sais qu'il m'impressionnait beaucoup. J'ai dû échanger deux mots avec lui. Quoi. On lui parlait presque pas. Et je le voyais, ses yeux, son regard, je me souviens, m'impressionnait beaucoup.
On va parler avec Cécilia Como, qui est notre invitée. Bonjour Cécilia, psychanalyste, spécialiste du couple et sexologue clinicienne de ce film Les Amours d'Anaïs. Dans le film, avec Anaïs de Moustier et Valéria Bonitelski, on est au sein d'un triangle, en tout cas amoureux d'émotion et de tension. Le mari, la femme, la maîtresse, on peut se dire, ok, on a vu ça 25 000 fois au cinéma ou dans la vie, mais lorsqu'une maîtresse rentre dans un couple et commence à vouloir fréquenter, parler, discuter, échanger avec la femme, ça c'est déjà plus rare et troublant pour le mari d'ailleurs.
Oui, mais là j'ai quand même plus l'impression que...
Sans tout dévoiler de la fin du film.
Que ça se joue beaucoup dans le désir fait que Anaïs a, et il est beaucoup plus il a besoin de s'enflammer, et c'est au travers d'Émilie que ça s'enflamme beaucoup plus finalement qu'au travers du mari. On voit bien que Anaïs est quelqu'un qui engloutit en fait la vie, qui va vite, qui consomme aussi beaucoup les histoires, et finalement j'ai l'impression que c'est cette femme Émilie, et ça commence par un fantasme, est la seule à pouvoir la ralentir en fait, et l'amener dans le présent, alors qu'Émilie, elle passe sa vie en fait à fuir le présent.
Et à courir. Alors désir et pulsion vont ensemble, mais ralentir les pulsions augmente le désir.
C'est pas la même chose, parce que la pulsion, en fait, c'est un terme psychanalytique, donc ça appartient vraiment à un champ de pensée psychanalytique qui a dit, pour faire simple, qu'on avait une excitation psychique qui était concomitante à une excitation somatique. Alors que le désir, c'est un état. D'abord, c'est pas sur le même registre, c'est plus dans un champ philosophique, au départ, le désir, et ensuite ça s'est introduit dans le champ psychologique, mais c'est un état psychique, c'est pas l'excitation naît du désir, c'est pas concomitant. Donc c'est quand même deux notions différentes. Là, il n'est pas question, à mon sens, de pulsion. On est, ce film est particulièrement juste, je trouve, je vous le dis, parce que je le trouve très très juste dans le désir au sens large. Parce qu'il y a des désirs dans ce film, en fait. Alors c'est vrai que celui qui nous saute un peu plus à la figure, c'est celui d'Anaïs, mais je trouve aussi qu'Émilie est dans... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tiroirs, en fait, qu'Émilie est capable d'être à la fois du côté de la raison, qu'elle va opposer, finalement.
Oui, et puis la sublimation, c'est lorsque deux désirs se rencontrent et vont, et vont dans le même sens.
Émilie, elle est aussi dans un autre désir. Enfin, bon, je peux pas dire, mais il y a vraiment des jolies scènes où on voit que les deux désirs cherchent à se protéger,
dans
se
votre
défendre.
Métier, dans votre métier de psychanalyste, vous encouragez à ce que les désirs se réalisent, ou en tout cas à ce qu'on les suive et ce qu'on les écoute, ou...
Alors, qu'on les suive, je ne sais pas, ça dépend...
De la norme acceptée par notre société.
Non, ça dépend de qui ça impacte. Parce que d'ailleurs, il y a une phrase que dit Anaïs dans le film que je trouve très juste, c'est que pour fuir le malheur, elle est égoïste. Et du coup, c'est un peu le contrepoint de vivre ses désirs à tout prix. En revanche, ce qui est évident, c'est que les gens qui n'ont pas conscience de leurs désirs, ça pose toujours interrogation pour un thérapeute, parce que
ils n'ont pas conscience de leurs désirs, ou ils n'ont pas de désirs.
Alors, ils pensent qu'ils n'en ont pas.
Voilà, mais ils n'en ont pas conscience.
Mais en réalité, ils
ne formulent pas, ils ne l'expriment pas.
C'est là où, effectivement, la conscience pose un frein, cette fameuse norme. Et c'est toujours intéressant, parce que derrière l'absence de désir, en thérapie, surtout, on trouve des gens assez déprimés, ou des gens qui vivent toujours dans le désir d'autrui, et de fait, n'ont absolument pas conscience du leur. Donc, on a en général des gens qui sont pas très en, qui sont assez en souffrance, que le désir, ce film, je trouve qu'il montre une chose, c'est que c'est un désir de vie. Il y a une pulsion de vie dans ce film. Et donc, c'est ça que ça représente. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai zéro désir, ce que moi je cherche derrière, c'est est-ce qu'il y a, où est la pulsion de vie? Est-ce qu'elle est endormie?
Ouais.
C'est plutôt ça qui m'intéresse.
Merci.
C'est vrai.
Merci Cécilia d'être venue à ce micro. Merci Cécilia Como, psychanalyste spécialiste du couple et sexologue clinicienne. Le héros du jour, monsieur Daniel Morin.
Alors, mon héros a failli être une héroïne, vous, Anaïs de Moustier, et puis j'ai regardé votre fiche Wikipédia. Né d'un père cadre commercial dans la grande distribution native de Lyon et d'une mère au foyer originaire de Lille. Ouais, héros du jour avec une fiche qui commence comme ça, ça fait pas très Wonder Woman. J'ai aussi tenté votre fiche, Valeria Bruni Tedeschi, petite fille de Virginio Bruni Tedeschi.
Non, Virginio, c'est mon frère.
Ah bah frère alors, mais là encore on n'est pas sur un profil Lara Croft. Du coup aujourd'hui mon héros est une machine. Hein. C'est l'ordinateur de bord des bus sans chauffeur de la RATP. Voilà. L'inauguration a eu lieu hier et aujourd'hui j'ai une pensée pour ce bijou de technologie qui doit se sentir humilié de ne pas être utilisé que pour les transports publics. Si ça se trouve, comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, la machine va prendre le pouvoir. Mettons-nous dans la peau de l'ordi. Putain, je m'emmerde. Quand je pense que je suis une bestiasse de technologie et qu'on m'utilise pour transporter des prolos, mais quelle vie de merde. Bon, puisque c'est comme ça, je vais rouler à 10 km/h. Ah, les cons, ils commencent à s'agacer, hein. Oh, elle fait quoi la machine? Je suis pressé, moi. T'es pressé de quoi, du con? T'as pas de boulot, t'as pas de famille, t'as pas de vie. En même temps, s'ils veulent de la vitesse, je vais en donner. Il est con, quoi, ce bus? Il va trop vite, on va se planter. Oh, j'ai demandé l'arrêt, il fait quoi, là? Tout droit jusqu'au terminus, rien à foutre des stations. Mon Dieu, la vieille dame sur le Vélib! Bingo! Mon Dieu, le bus est devenu fou, il va devenir ma boule. Autonomie 488 km. Eh ben, on y va. Vers l'infini et au-delà! Alors attention, un ordinateur frustré peut devenir incontrôlable, les amis. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'ordinateur central des bus sans chauffeur est définitivement mon héros du jour, cher Dagui.
Très bien, merci. Monsieur Tanguy, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Eh ben, je vais vous parler des prénoms. Il y a une polémique due à Éric Zemmour. Alors moi, pour unir les Français, je propose qu'on abolisse les prénoms. On les interdise pour s'appeler les uns les autres. On fera « Eh oh !» ou alors « Psst, psst
!» On en parle après les infos de midi. Pardon. Avec Léa Gadeau-Boudadi, Morgane Gagnon, Tanguy Passereau, Paul Mirabel, bonjour. Daniel Morin, nos invités Valéria Bouniteski et Anaïs de Moustier. Les amours d'Anaïs, c'est trop chic d'avoir son nom dans le titre d'un film en
c'est
même
clair.
Temps, non
ouais, je sais pas.
Ça vous fait rien
Non, pas trop. En fait.
C'est vous qui avez demandé.
J'aime bien ce titre, hein, mais.
mais quand non, vous voyez comme ça les affiches dans Paris, les colonnes Maurice avec marqué Les amours d'Anaïs, ça. Enfin, je sais pas, ça claque.
Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai.
Pas mal.
C'est vrai, j'y ai pas pensé. Non, j'ai surtout pensé aux questions reloues. Alors, vos amours, vous voyez.
Ah, est-ce que c'est vous
voilà.
Est-ce que c'est du sur-mesure et ainsi de suite.
En fait, non.
Mais alors, comment la définir justement, cette fille, au-delà de ses désirs dont on a parlé tout à l'heure, de cette envie de croquer la vie et finalement d'aller où elle veut. Elle est totalement libre.
C'est difficile de la définir au-delà de ça, parce que c'est vraiment ce qui la constitue le plus, je dirais, cette envie de poursuivre son désir, de l'écouter, d'y être attentive. Je sais pas, je dirais qu'elle est ardente et qu'elle est tout le temps en éveil, justement, comme le disait Valéria tout à l'heure. C'est un personnage qui avance. C'est un personnage qui avance parce que c'est quand même agréable de pas. Enfin, des personnages qui sont pas dans la plainte. On peut croire qu'elle
avance,
est froide,
ouais.
Mais en fait, elle c'est pas quelqu'un qui se complaît, c'est pas quelqu'un qui
non.
s'arrête.
Mais elle est inquiétante, Valéria, parce que votre personnage dit à un moment donné, mais qui êtes-vous ? C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous me voulez ? C'est quoi le problème, mais en tout cas, sa présence vous inquiète.
Voilà. Elle est un peu déstabilisante.
Troublante.
Plutôt troublante, pas inquiétante, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça, elle enlève un peu. On est sur des rails parfois dans la vie, elle fait dérailler un peu.
Et il y a un moment dans le film, encore une fois, sans dévoiler ce qui s'y passe à la fin, allez le voir, il sort ce mercredi, où je me posais la question de savoir si on allait vers un misery, c'est-à-dire justement avec une femme auteure et la manière dont une lectrice qui aime en plus ses ouvrages va s'immiscer dans sa vie, la troubler, la déstabiliser et continuer de ruiner le couple après avoir trompé la femme avec le mari, ou au contraire, si c'est un jeu
de close, dans Fatal Attraction.
Voilà. Ou si c'est un jeu de séduction, ou si c'est une vengeance, ou une manipulation, ou un triolisme, ou un amour à trois. Enfin, toutes ces questions se posent parce qu'on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Il y a une pièce remplie de gravures érotiques dans lesquelles elles se retrouvent face à face surprises toutes les deux. Et là aussi, ça fait planer quelque chose de troublant, mais pas défini.
C'est bien parce qu'on du coup on découvre tout ce qui vous passe par la tête en tant que spectateur à travers toute l'histoire. Nous on la connaît quand on la joue, donc on pense pas que ça peut effectivement être un personnage qui inquiète. Ou moi c'est vrai que j'ai pensé le film comme quelque chose de très lumineux et donc j'ai et
non,
puis elle en fait je la sens tellement sincère dans ses élans et absolument pas dans la manipulation que oui parfois elle déstabilise ses interlocuteurs, parfois elle est pas là où on l'attend, mais j'ai absolument pas joué de double jeu de stratégie ou et c'est ça je pense qui fait qu'à des moments elle est encore plus déroutante
elle est entière et incorrecte
ouais.
Et les gens dans la vie ils sont rarement entiers et ils essayent d'être corrects, alors c'est pas mal. Tout d'un coup, ça change.
Oui, mais elle est sincère. C'est-à-dire
oui,
que...
Oui, en entière.
Voilà, c'est ça. Oui, oui, mais
la correction,
si elle est fausse, elle est... C'est pas un meilleur atout, quand même.
Non,
si
mais
c'est juste
parfois,
le mensonge
parfois,
pour être correct.
Parfois, on peut être sincère et correct.
On peut tous permettre en amour, Anaïs Boussier
être... Bah oui. Ça, enfin, chacun pense que... Ouais, je pense qu'on peut tous permettre.
Valéria
Non, je pense pas.
Il y a la loi, oui.
évidemment. Mais au-delà de... Évidemment, mais...
Enfin, s'autoriser tous les amours, je dirais.
Oui, s'autoriser tous les amours, oui, mais tout se permettre avec l'autre, non.
Oui, ça, non.
Non, pas du tout. Je pense que, au contraire, l'autre est fragile. Donc, il y a une délicatesse à avoir en tête.
Ça s'appelle Les Amours d'Anaïs, c'est signé Charline Bourgeois-Taquet avec nos invités Anaïs de Moustier, Valéria Bruni-Tedeschi et également Denis Podalides et Bruno Tedeschini qui sont présents dans ce film. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Hier, j'ai entendu parler de la proposition d'Éric Zemmour d'interdire les prénoms non français en France, sauf en deuxième prénom. C'est-à-dire que sur les cartes d'identité, s'il est élu, on lira des trucs comme Louis Toufik Mehdi. Une soirée africaine, il n'y aura que des Chloé. Et je pense que c'est une bonne idée, mais pas assez radicale. À mon sens, il faut abolir les prénoms. Déjà, ça provoquerait une intimité immédiate. Morgane, je pourrais lui dire « ça va louloute » sans qu'elle réponde « oh, j'ai un prénom ». Ben non, on s'appellerait tous « mon petit chat, gros bébé, piou piou ». Après tout, on le fait déjà dans l'entreprise avec les collègues qu'on n'aime pas. On les appelle « la connasse du troisième » ou « le volcan ». en éruption si on collabore avec PPDA. En plus, le prénom est un marqueur social. Vous n'imaginez pas la pression qu'on met sur les Brian pour qu'ils finissent barman. À 3 mois, le premier hocher qu'on leur offre, c'est un shaker. À 2 ans, ils savent dénoyauter des olives, les mecs. Les Kelly, certaines se mettent au pole dance in utero. Leur mère est obligée d'avaler un Twix sans le mâcher pour qu'elle puisse tourner autour. Alors qu'un Charles, il est programmé pour faire Sciences Po et finir en politique. Il y a que Jordan Bardella, hein, qui arrive à faire le lien entre les deux mondes. Le seul Jordan à pas avoir été pris sur les ch'tis à Cancun 12, et donc il a fini au RN. Alors certes, il a été pistonné, puisque c'est le gendre de la sœur de Marine Le Pen. Là-dedans, il y a le gendre de l'un, la fille de l'autre, un neveu, 4 chats. Enfin, c'est moins une partie qu'une fête de gitans. Hein, comme l'hymne de campagne, je pense qu'ils vont partir sur Bamboléo. Mais sinon, avec comme prénom Jordan, tu t'en sors pas si à un moment donné, TFX ne relance pas l'île de la tentation. Regardez-moi, Tanguy, prénom breton. En breton, tan signifie feu. Et qui, chien. Pour dire chien-chien, on dit kiki. Ce qui prête à confusion. Parfois, un oncle breton vous dit, veux-tu voir mon kiki? Vous le rouez de coups en le traitant de satire avant de réaliser qu'il a juste adopté un teckel. Donc, si on traduit, plus ou moins littéralement, Tanguy veut dire guerrier ardent. C'est un prénom de chef de tribu. Ouais. J'étais fait pour étriper mes ennemis et dévorer leur cœur afin de m'imprégner de leur force vitale. Mm-hmm. Pas être à Inter à dire bonjour à des bouffeurs de quinoa du centre-gauche. Même quand Pascal Pro m'a téléphoné parce que je l'avais clashé dans une chronique, j'ai répondu oui, monsieur, pardon, monsieur, au lieu de dépecer en hurlant devant CNews. Du coup, je suis mal dans ma peau parce que je n'accomplis pas ma destinée, qui était d'envahir la Normandie et transformer Hervé Morin, président de région, en esclave sexuel. Les prénoms, c'est nul, parce que ça nous fiche dans une identité. Moi, il y a des jours où je me sens terriblement Martine, mais la société me refuse le droit à être une MILF. Il faut voir les regards réprobateurs de mon entourage quand je prends le bus pour le Cap d'Agde avec ce petit ensemble à trous, ma tenue émintale, comme je l'appelle, qui plaît aux grosses souris. Et il m'arrive, quand j'ai pris de la DHEA, ça le même jour que du 11 ans, de me sentir très très Kevin, hein, d'avoir envie de lâcher des vidéos sur TikTok, d'avoir la vie de Macron. Mais non, chaque jour je suis Tanguy, le guerrier ardent, et je dois me réfréner quand le Bounty reste coincé dans la machine à friandises. Je compose gentiment le numéro vert écrit dessus, alors que je devrais la défoncer à coups de hache. Le prénom influe sur notre comportement. Attila, si c'était appelé Timéo, il aurait fait de la voile l'été à la boule, hein, au lieu de dévaster l'Europe centrale. Et les prénoms, c'est trompeur. Moi, parfois, je dis, je suis allé chez Paul. Tout le monde imagine que Paul Mirabel me kiffe. Les gens se disent, le daron est validé par les jeunes du stand-up, qui va pas dire, c'est le taulier. Et en fait, j'ai acheté un chausson aux pommes, que je mange seul, gare Montparnasse, en attendant mon train pour une date à Brest. Il faut interdire les prénoms. Tant pis pour les types qui fabriquent les bols à Quimper et décideront un symbole ensemble vide à la place de Théo. Et au niveau international, il faut les interdire. Parce que Brooklyn, le fils des Beckham, il sera peut-être content d'avoir rien du tout comme prénom, plutôt que celui-là, le pauvre gosse. Ils l'ont baptisé, c'est véridique, du nom de l'endroit où il a été conçu. Enfin, si tout le monde faisait ça dans une classe de CP, il y aurait 4 banquettes arrière de la Citroën, 2 petits hôtels Ibis et 7 chez mamie un soir où elle n'était pas là. Enfin, le fils de Chris Martin, chanteur de Coldplay, s'appelle Moses, parce que c'est le titre d'une chanson qu'il avait écrite auparavant. Enfin, dans la même logique, un jour, il y a un type qui s'appelle Alakeleleu, qui viendra expliquer dans les médias qu'il est le fils caché de Bézu. On lui dira, c'est clair qu'avec un prénom qui respire la joie, on se doute bien que vous n'êtes pas l'enfant de Michel Barnier. Et ce qui est triste avec les prénoms, c'est le fait qu'ils disparaissent. Un article dans l'Express dit qu'en 2020, il y a eu seulement 4 Véroniques, 0 Jean-Jacques, alors que c'est le prénom de Goldman, star préféré des Français. Eh oui. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas son enfant Benny B ou Jean-Marc Ayrault. D'accord, mais Jean-Jacques, quoi. En 2020, j'ai vérifié, il y a eu 4 Tanguy seulement et 397 Daniel. Prénom à nouveau à la mode. C'est soit dû à Daniel Craig, soit à Daniel Morin. On ne sait pas. Hein. Le prénom, ça indique aussi le quartier dans lequel on vit, dans les coins bobos à Paris. Hein, donc en fait, à Paris, il y a 20 petits Hippolytes au mètre carré qui jouent au parc avec des Séraphines et des Achilles. Hein, quand il y a un Enzo qui arrive, les autres le lapident avec le petit chèche oublié la veille par le fils de Laurent Delahousse. Mais parfois, ça crée des situations pas possibles. Il y a une nounou qui crie « Marcel, c'est l'heure du goûter !» Et là, un monsieur de 84 ans déboule en disant « J'espère que ce sont des pépitos, pauvre cloche, parce que les pitchs d'hier, j'ai pas aimé !» Mais les prénoms, c'est cyclique. À part Adolphe, qui n'est jamais revenu à cause d'Hitler. Alors lui, il a coulé tout ce qu'il a touché, ce loser. Son prénom, plus personne n'en veut. Son type de moustache, plus personne ne le porte. Il a même causé beaucoup de tort au nazisme. Allez, moi je vous laisse. Je vais éclater 2-3 portes à coups de tête. C'est pas de ma faute, Nagui, c'est mon prénom.
Merci Tanguy Monsieur.
Et Tanguy, on se retrouve le 2 octobre au casino de Hyères, c'est dans le Var.
Ah oui, toi t'as proposé d'être marraine d'une petite Leïla.
Bah oui, si mon prénom ne devrait plus être porté, moi je propose, si vous attendez une petite fille, je veux bien être la marraine de cœur.
Enfin, moi j'encourage les mamans à éviter Nagui, c'est pas non plus le truc le plus dingue. Les amours d'Anaïs, justement, à propos de prénoms, avec cette présence. Alors, vous avez été à la semaine de la critique à Cannes, ça porte quoi un film d'être présent c'est à Cannes, c'est chic, je sais pas, il y a des commentaires, c'est le marché entre guillemets du film,
oui, c'est-à-dire. Voilà, c'est pas une question de chic, c'est une question que les films ont besoin, absolument besoin d'être présentés au public, d'être un petit peu racontés. Voilà, on a surtout en ce moment, vraiment, on a extrêmement besoin que les gens viennent voir les films.
Pour en sortir quoi, avec justement ce qu'on a dit tout à l'heure, se laisser aller ses désirs, pour c'est un moment de rêve.
C'est un moment de rêve, d'éveil et de communion. Parce que c'est pas du tout pareil de voir un film chez soi. C'est moi, je suis retournée au cinéma après toute cette période et je ressens vraiment. Réellement la même chose que je ressens quand je rentre dans une église. C'est-à-dire, c'est quand même. Et en plus, les églises étaient ouvertes et pas les cinémas. Donc, ça, c'était grave. Et je ressens cette chose de communion, de l'être humain. Voilà. Et alors, c'est important
quand vous allez voir un film, vous prenez un verre après pour un pot pour en parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours une suite, il résonne le film après.
Ouais, j'aime bien aussi aller au cinéma toute seule. Ça me plaît aussi l'après-midi.
Anaïs aussi?
Je déteste commenter le film après avec quelqu'un.
C'est vrai?
Je déteste. Ouais. Enfin, j'adore la résonance d'un film. Souvent, j'aime beaucoup marcher. Là, je suis allée voir Annette. Après, j'ai marché vraiment 3 km dans Paris.
Mais Annette, il appelle ça. Hein.
Pour laisser le film résonner, et quand quelqu'un dit alors t'as aimé, enfin qu'il faut tout de suite mettre des mots sur ce qu'on a ressenti.
Et le pire, c'est quand on sort d'une salle et qu'on entend les commentaires des inconnus sur le film, des gens qu'on connaît pas, parfois ça détruit tout.
Mais c'est bien aussi, moi je trouve que ce qui est bien au cinéma, c'est d'être dérangé par un commentaire, par un rire, par quelqu'un qui s'en va. Ce qui est bien au cinéma, c'est justement de voir le film. Pas en sécurité.
Alors, le paradoxe, c'est que vous dites aimer aller au cinéma seul.
Ah bah oui, mais parce qu'il y a des étrangers.
Mais pour être avec du monde.
Ah bah oui, évidemment.
Avec des étrangers.
Ouais. On choisit l'expérience, la manière de vivre l'expérience.
Très bien. Les amours d'Anaïs, c'est ce mercredi.
À 10h du matin.
Allez-y seul, il y aura du monde. Voici la culture. Par Leïla Kaddour Boudadi, autre que ce film. Qui sort ce mercredi.
On va parler justement d'un film avec trois noms de comédiens. Si je vous dis René, Reggie Jampage, Harry Carville, pardon, et Georges Mackay. Est-ce que ça vous dit quelque chose le nom de ces comédiens?
Il y en a Reggie Jampage dans les chroniques de Bridget.
On peut pas l'oublier. Oui, c'est
sur
Netflix. Voilà, vous voyez qui c'est? Roger Jampage, qui est dans les chroniques de Bridgerton,
qui est cet
homme absolument merveilleux.
Il est pas deg.
Il a arrêté la série, ce qui rend dingue toute sa vie.
Henry Cavill,
c'est Spider-Man.
Ah bon, d'accord.
Ils ont tourné
Henry Cavill, c'est Superman, absolument. Mmh. Et George Mackay, vous le connaissez un petit peu moins, mais tous les trois sont en lice pour.
Anaïs connaît personne des trois.
Non.
Tous les trois sont en lice pour quelque chose de très important.
Un rôle.
James Bond.
Absolument. Pour prendre la succession de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Alors, vraisemblablement, c'est Reggie Jampage par sa notoriété aussi, sa beauté, son jeu, tout ce qu'on veut.
On parlait d'Idriss Elba pendant longtemps, non?
Absolument. Mais il n'en est plus question, vraisemblablement. Mais pour l'instant, c'est plutôt lui qui tiendrait la corde, sachant que c'est pas encore décidé, donc on verra. Est-ce que ce genre de héros masculin, James Bond, c'est un héros qui a un peu évolué avec le temps, notamment depuis l'apparition de Daniel Craig. On lui trouve une forme de sensibilité un peu plus grande. Ça tranche avec les incarnations précédentes.
Et Sean Connery, Roger Moore, quand même.
Oui, sauf qu'ils passaient leur temps à retourner une fille sur un canapé, quoi, en fait.
Qu'est-ce que je viens de dire?
Voilà, exactement.
Si tu n'aimes pas les meubles.
Non, n'en pas les autres. Ok, j'ai bien compris. Est-ce que c'est un héros masculin qui vous parle encore aujourd'hui à toutes les deux?
Ah, moi, j'ai pas vu les derniers.
Et vous, Valérie?
Moi, pas du tout. Moi, j'ai jamais trouvé James Bond sexy. Excusez-moi.
Ouais. Un peu Pierce Brosnan,
c'est pas mon fantasme du tout.
C'est le genre de film ou c'est le genre de
d'incarnation?
Non, le genre d'homme aussi. C'est pas mon
un peu trop propre.
Pas mon type.
Un peu trop propre. Non.
Alors qui serait votre
Adam Driver, clairement. Adam Driver en boucle. Hein.
Ouais.
En boucle. Et vous, Valérie?
Al Pacino, De Niro, moi c'est d'autres hommes d'avant, Marlon Brando, je sais pas, Mastroianni quand même.
Ah, quand même
dans un type totalement différent, mais mais quand même que je trouve quand même totalement passionnant. Et puis Depardieu aussi.
Mmh. Ouais. Ah, enfin un nom qui n'est pas italien, parce qu'il y a Mastroianni, Al Pacino,
De Niro.
Et Depardieu.
Merci Alicia.
Autre question, un album culte va ressortir pour son 25e anniversaire.
Thriller.
Quelle année cet album?
25 ans, bah non.
25.
C'est pas Nevermind de Nirvana?
Non.
Le Black Album de Metallica.
Attends, donc on est en 95.
C'est un. C'est l'album d'un groupe qui a cartonné 23 millions.
Spice Girls.
Absolument. Ah, ce sont les Spice Girls. Absolument. 25 ans après la sortie de Spice.
Je sais pas si ça a bien vieilli, ça, si.
Alors, ça a plutôt pas trop mal vieilli. D'autant plus que là, ils vont proposer une version enrichie du projet qui sera sobrement intitulée Spice 25. Voilà, comme ça, personne ne s'y perd. C'est quand même un album qui a, mais 23 millions, c'est, je crois, l'album le plus vendu d'un groupe de femmes au monde.
Vous avez même fait un film,
il a 25
plus
ans.
Que Destiny's Child, tu crois?
Ouais, vraisemblablement. Ouais, ça a déjà 25 ans. 25 ans, tout ça. Est-ce qu'il y a un album comme ça de qui vous inspire une forme de nostalgie?
Bah, celui-là, moi, j'étais à fond.
C'est vrai.
Ouais. Je me souviens parce qu'elle montait un escalier au début. Ouais, après rigoler. Yo, c'est... Je me rappelle vraiment du début de la chanson.
Et genre, vous avez les chorégraphies en tête, quoi. Des
clips
et tout.
Ouais, j'étais.
Voilà ça. Et vous étiez laquelle, Anaïs?
Trop bien.
Je sais plus, il n'y avait pas une rousse avec des cheveux genre hyper.
C'est Mel C. Mel C ou Jelly.
Ah non, la rousse, c'est
Jelly.
Ouais, voilà,
Baby.
Elle
aimait bien. Ouais. Et vous, Valérie, est-ce qu'il y a un album qui vous inspire une forme de nostalgie où vous vous revoyez jeune, chantant à tue-tête, faisant les chorégraphies? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a marqué?
Non, là, ça me vient pas en tête.
Ouais.
Chopin?
Ah bah, Chopin. Évidemment. Non, le Chopin. Quand il montait l'escalier.
C'est ça.
En jogging.
La Corée, là.
En croque top.
Non, mais sur Chopin, on peut penser à Gainsbourg, c'est parce que cette chanson, c'est quand même. Sur ce morceau, il a fait une de ses plus belles chansons.
Il a beaucoup. Il s'est beaucoup inspiré des musiques classiques qu'il adorait et qu'il revendiquait. Il n'y a, a pas de loup là-dessus. Ce samedi à 20h40 sur France 2. The artistes, des auteurs, compositeurs, interprètes, ils seront que 10 dans ce premier prime et les autres viendront la semaine suivante. Et il n'en restera que 3 sur les 10 qui vont se produire ce samedi. Auteurs, compositeurs, interprètes qui suivent des masterclass avec Leïla.
Oui, et on a commencé hier et c'est la marraine de l'émission qui nous a fait le plaisir de venir, c'est Clara Luciani. Et on lui a demandé très naturellement de nous raconter comment est-ce qu'on écrivait une chanson, le texte, la base, comment on se lance dans cette aventure qui est quand même troublante, qui peut être très très intime. Et donc elle a comme ça donné quelques conseils. Les artistes qui sont présents prennent ce qu'ils veulent bien prendre. En tout cas, je crois qu'ils étaient ravis d'échanger avec elle. Un des premiers conseils qu'elle a donné, et je crois que ça vaut pour tout le monde ici et tous ceux qui nous écoutent, c'est être doux avec soi-même, être un peu plus doux avec soi-même. Peut-être qu'on est un peu raide, parfois un peu critique, qu'on s'auto-fatigue.
Dans la comédie aussi? Dans le jeu aussi, on est...
Ah oui, sévère même.
C'est vrai.
Donc, moi, je me frappe, un petit personnage.
Avec le prénom que t'as, Tanguy, c'est normal, forcément. Donc, un peu de douceur. Donc, on a abordé ainsi tous les aspects de l'écriture d'un texte. Et puis, Clara nous a parlé aussi des formes de licence poétique qu'on peut s'autoriser.
Ça m'arrive souvent de rêver que j'écris des super chansons.
Ah non, c'est
moi,
une licence poétique.
Ouais. Parfois, des fautes de français ou des mots qui arrivent un peu comme ça, de façon... comme un petit grain de poivre, quoi, on se demande si on l'aime ou pas, ce mot-là. Ça peut être comme, par exemple, le cul dans ma chanson, le reste. Ouais, mais j'aime bien l'idée d'une écriture imparfaite et qui dérange. Et souvent, quand je faisais écouter mes premières chansons, on avait tendance à corriger ces petites aspérités. Et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui faisait la richesse de mes textes. Et j'ai arrêté, quoi, d'écouter ces conseils-là.
Mais c'est vrai que quand on repense aux textes de Renaud, quand on repense à des textes de Ferré aussi, parce qu'elle a fait une allusion à ça, il peut y avoir, ou même de Véronique Sanson, il peut y avoir ce que l'on appelle des fautes de français, mais c'est ce qui fait la différence,
la charme d'un texte, la licence poétique. Elle dit qu'il faut apprendre à développer son propre langage, ça vaut aussi, j'imagine, dans le cinéma, quand on réalise ou quand on joue, c'est trouver sa propre langue. Et puis, elle aborde aussi ce moment où on pense chanson toute la journée, on en rêve même.
Ça m'arrive souvent de rêver que j'écris des super chansons. Vraiment très très bien, genre vraiment digne des Beatles, quoi. Et je me dis, oh là là, ça va être énorme. Et alors souvent, je me réveille pendant la nuit et je me dis, il faut vraiment que j'enregistre ça parce que ça va être vraiment une chanson immense, quoi. Et le matin, je me réveille et j'entends des trucs genre... C'est nul.
Et donc du coup c'est tout pourri quoi. Voilà. C'était... Et ça je trouve que ça fait du bien d'entendre de la part d'une ouais. chanteuse comme elle, avec ce talent qu'elle a, de dire bah, parfois c'est vraiment ouais. tout nul. Parce que j'imagine ça vous est déjà arrivé de penser une nuit où Valéria par exemple à un scénario de film ou à
oui,
quelque chose.
Oui, oui, une idée. Ouais. Tout d'un coup des idées. De la nuit, après, elle passe pas 10 heures du matin. Quoi. C'est une catastrophe.
Mais j'adore ce qu'elle dit sur le fait que les gens le corrigent ses erreurs ouais, et ouais. tout ça. Enfin, quand on est acteur et qu'on voit des gens faire des premiers films, c'est horrible de voir parfois des gens qui sont à côté et qui disent au réalisateur comment faire un film. Quoi. Ils disent, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire. Moi, à chaque fois, je dis au réalisateur, non, mais fais comme toi, t'as envie, voilà. vas-y, tu t'en fous, les écoute pas.
Il vaut mieux les cultiver, ces erreurs, bah cultiver la différence plutôt. Ouais.
Évidemment.
C'est ce que font ces artistes. Rendez-vous samedi soir pour cette nouvelle formule à 20h40.
Et rendez-vous ce soir sur Culture Box à 20h pour la suite de Masterclass. Ça sera avec Trio et on va parler de la mélodie, de la composition d'un morceau.
Très bien. Ouais. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour toutes les Martines qui sont depuis 15 minutes pétrifiées de peur qu'un jour elles se transforment en Tanguy Pastoureau, puis en Kiki le Sauvage. Non, c'est rien les filles, c'est Pastoureau, il est un petit peu cinglé. Désolé pour tous les réalisateurs et réalisatrices qui avaient prévu de boire un petit café, tranquille, avec Valéria Brignitedeschi. Eh ben non, c'est café, entretien d'embauche, sérum de vérité, test de cul, et prise d'empreintes digitales, bras de fer, série de pompes. Eh ouais, c'est du taf les mecs. Désolé enfin pour Laurent Lafitte qui m'a appelé à la pause pour me dire que Les Amours d'Anaïs lui semblait être un bon film, mais que cette semaine il n'y avait pas mieux à l'affiche que le sien, L'Origine du Monde. Il a pris le melon Lafitte hein, depuis hier, il a vraiment pris le melon.
Sauf que le gros avantage d'un film, c'est qu'on peut voir les deux, heureusement. Demain c'est Agnès Hurstel et Jonathan Lambert qui seront nos invités dans la bande originale. Merci Valéria.
Merci à vous.
Merci Anaïs de Moustier. Les Amours d'Anaïs, c'est au cinéma demain le mercredi 30, dès 10h du matin, mercredi
15.
9h. C'est une belle séance, cette River. Il faut y penser.
Il faut y aller seul, il y a du monde. Passez une bonne journée, à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
À demain.